France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Calypso Vanoir. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Broken Man de Saint Vincent. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui sera ce soir à Boulogne-Billancourt pour nous faire visiter la dernière exposition du musée Albert Kahn consacrée aux photographies de ses jardins. Le tout est réalisé par Margot Page avec Ludovic Auger à la prise de son. Bonsoir Calypso Vanoir.
Bonsoir.
Votre nouvel album, Apocalypso, jeu de mots. Non, il est bien. Hein. Vous l'avez trouvé il y a longtemps le titre ?
Je l'ai trouvé vraiment sur le tard en fait. L'album était terminé, tous les morceaux étaient terminés. À la base, je pensais même pas l'appeler comme ça. Et en fait, il y a un des morceaux, donc Apocalypse Now, où à un moment j'avais improvisé un truc où je disais Apocalypse Now, Apocalypso. Et à un moment, je me suis dit, ah, ça pourrait être cool. Et je dis, non, c'est un peu mégalo quand même. Et en fait, cet album porte très bien son nom parce que c'est un mélange de moi et de plein d'apocalypse. Donc, c'était son nom.
Eh bien, c'est un très beau nom, Apocalypso. Il vient tout juste de sortir. Dire déjà que vous serez en concert le 15 mai à la Boule Noire à Paris, le 19 mai à Saint-Brieuc pour le festival A-Rock. On peut déjà noter que vous serez le 24 août au domaine de Gramont à Montpellier. Ça, ce sera le festival Palmarosa Festival. Alors, forte hérédité, une grand-mère comédienne, Myrta Medeiros, des parents qui ont fondé le groupe Stinky Toys, avant de simplement s'appeler Elie Jacquenot, puis de tracer chacun leur chemin de leur côté, leur chemin artistique. De ce fait, votre rapport à la musique, on se dit qu'il n'a peut-être pas été très évident, parce qu'il a été peut-être un peu écrasant. Et puis, il y a eu un premier choc, un premier amour pour un Polonais mort 140 ans avant votre naissance, Frédéric Chopin. Avant d'en parler, on va écouter Serge Gainsbourg dans l'émission Pulsion. C'était sur Radio France, Braise Isel, en novembre 85.
Plus tendance à m'exprimer en mineur qu'en majeur. Et puis aussi, n'oublions pas que c'est une certaine dose de romantisme. C'est abstrait, mais c'est... chez moi le daguerréotype de Chopin. C'est la seule photo qui existe de lui. Super. T'es aussi malheureux que moi, j'imagine. Seulement, il a pas eu le bol que j'ai d'atteindre mon âge. Il est mort très jeune. Oui, avec une œuvre colossale derrière lui. Moi, j'arrive pas là, je suis. Enfin, je fais ce que je peux. J'ai reçu je parlais de Chopin à la radio il y a fort longtemps. Parce que j'adore ses études, ses nocturnes. Par des grands interprètes, bien sûr, comme Alfred Cortot, Horowitz. J'ai balancé à la radio, j'ai reçu une lettre de arrière petite fille. J'ai dit, monsieur Gainsbourg, Chopin est un mal aimé, vous avez tout compris, ce que vous avez dit, balancé. C'était bien.
Alors, et quelle est votre histoire à vous, Calypso Vanoir, avec Chopin ?
Avec Chopin. Alors, en fait, donc chez ma grand-mère, il y avait juste quelques vinyles de musique classique qui traînaient et genre deux vinyles de Elie Jacquenot et deux vinyles des Beatles que mon père avait laissé derrière lui. Et donc, moi, j'écoutais tous ces vinyles en boucle. Et c'est vrai que quand j'ai découvert la musique classique, donc j'avais, 4-5 ans, ça a été vraiment un choc. Et je me souviens, et particulièrement Chopin, parce qu'il y a quelque chose de très intime dans la musique de Chopin. Et je me souviens que ça m'a bouleversée et que je me suis dit, mais cette personne exprime sans mots tout ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que je ressentais à 5 ans? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'avais l'impression qu'il exprimait avec sa musique? Mais j'ai été bouleversée au plus profond de moi-même. Et j'avais aussi une cousine qui faisait du piano classique. Et je me souviens, je l'espionnais par la fenêtre dans notre maison de campagne. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'un être humain peut faire de plus beau que de toucher cet objet et de produire ces sons merveilleux? Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau? Donc j'ai harcelé mes parents pour avoir un piano. Et voilà, et j'ai eu un piano. Et à la base, moi, je voulais que faire de la musique classique, mais pas professionnellement. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, c'était juste pour mon plaisir.
Alors, le piano, vous ne l'avez pas eu longtemps à cause d'un déménagement, je crois.
C'est ça.
Et de fait, peut-être que ça génère aussi une forme de complexe vis-à-vis de l'apprentissage qui aurait pu être le vôtre de façon classique.
Totalement, oui. Moi, j'aurais adoré avoir une formation très classique, justement, conservatoire. J'ai pas mal de musiciens classiques dans ma famille. Ma cousine Germaine est claveciniste. Coco, Calliope. Un petit bisou. Et donc, voilà, moi, je me sentais un peu... Et puis c'est marrant, je repense là à l'extrait qu'on entendait quand Gainsbourg disait « je lui arrive pas à la cheville », mais en même temps, bah, qui arrive au-delà de la cheville de Chopin.
Enfin. Oui, pas grand monde.
Voilà.
Alors vous reviendrez à la musique, bien sûr, on va le voir, mais avant cela, vous avez eu, Calypso Valois, d'autres envies artistiques et un amour, notamment des textes classiques qui semblent tracer une voie. Vous voulez devenir comédienne, alors là encore... comme pour des envies musicales, votre père n'était pas très chaud et vous n'avez pas beaucoup poussé vers la musique. Parce que, bon, c'était une forme de protection, j'imagine. Il savait la violence, la dureté du monde artistique. Mais enfin, bon, les jeunes gens n'écoutent jamais leurs parents, ça c'est normal. Et vous voulez, vous, porter la musique de l'alexandrin racinien, goûter au feu de la rampe. Est-ce que vous avez fait une école d'ailleurs de théâtre?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai joué un peu par hasard, parce qu'à la base, je dansais et je me suis fait recruter dans une pièce où il fallait passer une audition de comédienne. Et ils m'ont prise. Et
vous
en
avez
fait,
quel âge là?
Je sais pas, j'avais 18 ans, 19 ans. Et en fait, donc j'allais jouer toutes les semaines et tous les week-ends. Et j'étais là, mais c'est un travail, enfin, c'est génial. Je m'amusais tellement, je me disais, mais j'ai pas envie de faire autre chose. Et après, donc j'ai fait un conservatoire, après j'ai fait une école de théâtre. Et à cette époque, j'ai rencontré une personne avec qui nous avons monté un groupe de musique. Mais à la base, c'était pour rigoler.
Cinéma.
C'est ça, exactement. Et donc c'était une sorte de blague. Et puis... la blague est devenue un peu sérieuse.
Ouais, mais la blague, elle s'origine aussi dans le fait qu'au même moment où vous prenez ces cours de théâtre, arrive un synthétiseur. Mmh. Et ça, ça vous permet de renouer avec la musique sans le côté pesant, très littéralement, du piano. Le synthétiseur, ça libère quelque chose chez vous?
C'est ça, oui. C'est vrai que moi, j'ai toujours été très... on peut le dire complexé par rapport à la musique classique qui est tellement riche, qui est tellement complexe. Et du coup, dès que je me... Par exemple, quand j'étais jeune ou adolescente, j'osais pas composer. Dès que je me mettais à plaquer des accords sur un vrai piano, oh, j'avais l'impression que c'était ridicule. Et en fait, quand j'ai eu un jour ce synthétiseur qu'un ami m'a prêté, j'ai commencé à plaquer des accords, à faire des choses pour rigoler, des mélodies. Et en fait, de fil en aiguille, on fait un morceau. Et oui, ça m'a un peu décomplexé en fait, parce que c'était un peu oh, c'est pas sérieux, c'est pour rigoler.
Et puis il y a le fait aussi la satisfaction de pouvoir créer rapidement, parce que bon, le théâtre, ben c'est d'abord réunir des gens, c'est choisir un texte, c'est répéter, c'est un long travail. La musique, elle permet comme ça une forme non pas d'instantanéité, mais beaucoup de plus grande rapidité. Cinéma, le groupe que vous évoquez, c'était avec Alexandre Chatelard. Vous allez sortir deux EP, un album, mais dans ces mêmes années, c'est toujours les choses qui se mélangent ou se croisent, ou en tout cas, il y a des chemins qui sont parallèles. On vous découvre au cinéma, Calypso Valois. Il y a les premiers pas devant la caméra d'Olivier Assayas en 2012 pour Après mai. Assayas que vous retrouverez pour Personal Shopper en 2017 et puis pour sa série Irma Vep en 2022. Mais on vous a vu aussi dans L'écume des jours de Michel Gondry, dans La vie domestique d'Isabelle Chachka, dans La belle saison de Catherine Corsini. Alors, est-ce que dans ce début des années 2010, où il se passe beaucoup, beaucoup de choses pour vous, Calypso Valois, vous avez envie de privilégier une pratique à une autre, ou est-ce que ça vous va bien justement de mener de front ces deux trajectoires-là?
Eh bien, disons que, en fait, à l'époque aussi, on me proposait de jouer au théâtre. Et en pour plus. Le coup, ouais, ça, c'était dur à combiner. Parce que la musique, ça demande tellement de temps, tellement de répétitions, etc. C'est vrai que je trouvais que ça se combinait mieux avec le cinéma, parce que le cinéma, c'est plus ponctuel. Et du coup, je me souviens qu'à regret, j'ai dû refuser des projets de théâtre que, notamment, des amis du conservatoire ou de l'école de théâtre m'avaient proposé. Mais je me disais, je peux pas tout faire. Juste, ça rentrait pas dans les journées. Mais après, je me dis, quand on a des opportunités de jouer dans un film ou de, enfin, on peut pas refuser. Moi, j'ai eu des périodes où je travaillais tous les jours non-stop en dormant 3 heures par nuit, mais voilà, on aime tellement ce qu'on fait.
Le cinéma, vous y êtes tout de suite senti bien?
Plutôt, ouais. Après, j'ai eu de la chance. Enfin, je veux dire, mon premier tournage, c'était avec Olivier Assayas.
Qui n'est pas le plus méchant metteur en scène, n'est pas le plus
adorable, qui est incroyablement talentueux et surtout qui est tellement gentil, bienveillant, qui met à l'aise, enfin, qui vraiment est... Enfin, voilà, on ne se sent pas du tout... Enfin, voilà, il prend le temps, il est très, très bienveillant, très doux. Et du coup, je ne me sentais pas du tout mal à l'aise.
Alors, on va parler d'un autre garçon bienveillant et doux, puisqu'il est important, Calypso Valois, pour votre entrée en musique solo. C'est Étienne Dao. Alors, avant de nous parler de lui, on va l'écouter, lui, parler de sa rencontre avec vos parents, à l'époque, qui se produisait encore sous le nom de Stinky Toys. Étienne Dao racontait cela dans La Voix Nue, sur France Culture, en octobre 2017.
J'écrivais des chansons depuis l'âge de 15 ans. Et j'osais pas le dire. Richard Dumas, avec lequel j'ai fait, qui est un photographe aujourd'hui, et avec lequel j'ai fait mes premières maquettes, voulait que je sois le chanteur de son groupe. Il avait un groupe qui s'appelait TVC15, comme la chanson de Bowie. Moi, évidemment, j'étais très timide et pas du tout. Je me serais jamais imaginé devant un micro. C'était absurde. Et il venait me chercher tous les dimanches pour que j'aille répéter. Je l'entendais monter. L'escalier de chez moi, et puis j'étais derrière la porte, je n'osais pas ouvrir la porte, je suis jamais allé à une répétition. Et les Toys sont restés à Rennes parce qu'il y a eu cette tempête de neige qui a fait qu'ils n'ont pas pu rentrer avec leur petite camionnette à Paris. Donc on s'est retrouvé dans mon petit appartement d'étudiant où il faisait moins 12, une copine qui m'avait prêté un réchaud électrique, on était tous massés autour de ce réchaud électrique, et on a bu jusqu'à 7h du matin où ils ont repris la route. Et j'ai fait connaissance avec des gens où je me suis dit, mais vraiment, voilà, effectivement, une famille d'esprit. Ils aimaient le rock, mais ils aimaient aussi les yéyés, ils aimaient le Velvet et Françoise Hardy. Donc je me suis dit, mais ça existe. Hein. Parce que j'étais très isolé, en fait. À Rennes, c'était très cloisonné, il fallait aimer le rock, il y avait des codes. Et moi, je me suis toujours senti un électron libre par rapport à ça. J'ai toujours détesté les uniformes, les codes et les obligations. Et pour moi, le rock était un peu, avait ce côté un peu trop sérieux, qui ne me convenait pas, en fait. J'aimais trop de choses différentes. J'ai toujours eu des goûts extrêmement éclectiques en tout, et c'est impossible pour moi d'être dans une case. Et j'ai rencontré des gens qui étaient comme ça. Et l'alcool aidant, j'étais fasciné de voir qu'on se ressemblait tant. Et j'étais fasciné aussi par leur beauté, leur style, et puis par leur manière de parler, un truc. Enfin, ils étaient vraiment, j'étais ébloui, quoi. Et je leur ai dit, voilà, je fais des chansons. j'ai lâché le grand secret. Et ils m'ont dit, ah, c'est bien. Il faut que tu fasses de la musique, vas-y, c'est bien. Et c'était la première fois qu'on me disait « Tu peux le faire, c'est bien. » Le lendemain, j'ai commencé à écrire.
Avec un petit peu de Stinky Toys. Alors, c'est beau ce passage de relais, puisque ce sont vos parents qui encouragent Étienne Dao. Étienne Dao, il joue quel rôle dans votre entrée en musique en tant que Calypso Valois?
Déjà à l'époque de cinéma, il a déjà joué un rôle parce que, en fait, on s'est rapprochés. Avant, on se connaissait très peu en fait, et on s'est vraiment rapprochés quand j'ai perdu mon père. Et à l'époque, j'avais commencé donc le groupe, et moi, comme je vous disais, je faisais ça. C'était un peu pour rigoler, pour m'exprimer, parce que je trouvais une façon de m'exprimer sur plusieurs plans. Et en fait, je lui ai fait un jour, il me dit, j'aimerais bien écouter quand même ce que tu fais avec ton groupe. Je lui ai dit, non, mais c'est pour rigoler. Il me fait, non, mais fais-moi écouter. Et je lui ai fait écouter. Il me dit, mais c'est trop bien. Faut que tu le sorte. Donc c'est vrai que ça, bah, quand quelqu'un comme lui vous dit ça, vous dites ah ok, parce qu'en plus lui c'est pas le genre à dire des choses pour faire plaisir, et donc il est là mais c'est super, et après quand j'ai arrêté le groupe il m'a dit maintenant c'est super, il faut que tu continues, il faut que tu fasses ton projet à toi. Donc et pareil, quand j'ai fait mes premiers morceaux toute seule, je me suis dit je vais lui faire écouter pour avoir son avis, et voilà, peut-être il va me dire écoute avoir son avis honnête. Et je lui fais écouter je sais plus combien de morceaux, il me dit mais t'en as plein, je pensais que tu me ferais écouter quatre petites maquettes. Et il m'a dit mais c'est super, enfin il faut que tu continues, il faut que tu sortes ton album à toi. Donc cet encouragement psychologique, voilà, d'avoir quelqu'un qui quelqu'un et pas n'importe qui vous dit ce que tu fais c'est bien, continue, va au bout, c'est tout. Enfin, comme lui quand il disait que d'avoir des personnes comme ça qui l'admiraient lui disaient c'est super, vas-y. Ouais, c'est
beau passage de relais. Et de fait, il y a un premier EP, janvier 2017, le jour je floue, chez Piass. En octobre de la même année, le premier album de Calypso Valois, Cannibal, réalisé par Yann Wagner, dont on va reparler. Mixé à l'époque par Jean-Louis Pierrot, un ancien des Valentins, collaborateur de votre père, Jacques Thaume. Mais entièrement écrit et composé par vous, Calypso Valois, ça, c'est important. Très bon accueil critique et beaucoup de concerts qui vont suivre, presque un an et demi de tournée, je crois. Est-ce que vous avez le sentiment, à ce moment-là, de vous sentir à votre place ?
Oui. En fait, à partir du moment où, enfin, j'ai l'impression que on délivre entre guillemets une œuvre où on se sent en phase complètement avec cette œuvre, il n'y a pas de raison de pas sentir à sa place. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Alors, il faut dire que quand même, si on reprend un peu cet album, l'amour, la mort, oui, le cannibalisme, là, c'est le tiercé gagnant de premier album. Alors, sous influence, on va dire gothique, mais du gothisme de l'époque romantique, fin 19e siècle, le vrai gothisme. On va voir que votre nouvel album s'intéresse d'autres façons à d'autres liaisons dangereuses, plutôt revisitées par les fleurs du mal. Mais quand vous écrivez Calypso Valois, voir que ça vient après la musique généralement, mais l'écriture, elle est quand même nourrie à la fois de vos lectures, de votre imaginaire. Et quand vous étiez en phase, ce qui est évidemment heureux avec ce premier album, Cannibal, qu'est-ce que vous aviez, vous, envie de sortir de vous à ce moment-là?
C'était pas très conscient, en fait. Donc, c'est vrai que les musiques, elles viennent comme elles viennent. Et ce qui est assez étrange, c'est que souvent, le titre du morceau vient aussi tout de suite avec la musique. Et très, très souvent, c'est le titre final du morceau. Et le mot apparaît dans la chanson. Enfin, ça arrive parfois que je le change ou que le texte, finalement, n'ait plus rien à voir. Mais c'est rare. C'est comme si les germes étaient déjà dans le tout premier jet, en fait, du morceau. Et comme ce que je vous disais par rapport au titre de l'album, il est là depuis très longtemps, mais ça a fait tilt très tard. Et du coup, c'est pas très conscient, en fait. C'est souvent, donc la musique vient, je sais même pas trop comment. Même parfois, je réécoute ce que j'ai fait et je me dis, j'aurais pas pensé à faire ça. Enfin, je l'analyse a posteriori. Et après, c'est la musique vraiment qui m'inspire le texte. Ou parfois aussi, je note tout le temps plein de choses sur un cahier ou dans mon téléphone, des idées. Je suis là, ah, ça c'est super, ça va trop bien sonner, je vais mettre ça dans le morceau. Et en fait, je l'essaye et ça sonne pas. Et donc, je suis là, ok, faut changer. Ou tout à coup, la musique, elle appelle complètement autre chose. Elle me donne envie de dire autre chose. Et voilà. Donc, après, qu'est-ce que j'ai... J'ai sorti mes tripes, qu'est-ce que je voulais sortir exactement, je ne sais pas.
Le deuxième album vient de sortir, alors pas besoin d'avoir une grande calculatrice, 7 ans après le premier, Calypso Valois. Pourquoi ce laps de temps aussi long, ce qui est plutôt rare?
Alors en fait, à la base, je voulais justement que ça aille très vite. Et alors il faut dire aussi que, donc effectivement, on l'a sorti en 2017, mais après, comme vous le disiez, on a tourné pendant un an et demi, donc ça nous a amené jusqu'à 2019. Et moi, j'avais un peu du mal à composer en même temps. À chaque fois, je commençais, du coup, je m'interrompais, donc c'était un peu, c'était pas évident. Et en fait, après, dès qu'on a fini la tournée, moi, j'ai embrayé direct. Et après, bah, juste l'année d'après, il y a eu le Covid, donc c'était pas du tout le bon moment. Et après, voilà, un concours de circonstances, un enchaînement d'embûches, on va dire. Et voilà, et le temps passait, ça m'énervait de pas pouvoir aller au bout. Après aussi, en cours de route, du coup, j'ai fait aussi quelques autres nouveaux morceaux parce que voilà, je me lassais de ceux que j'avais fait avant. Et vraiment, je m'agaçais du temps qui passait. Et en plus, on a dû retravailler l'album à différentes étapes. Enfin bon, bref. Et maintenant, je me dis quand même que l'album tel qu'il est aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il aura, il n'aurait pas été le même il y a 2 ans. Ou 3 ans. Donc je me dis, voilà, c'est comme ça, et c'est sûr que je l'aime mieux maintenant. Donc je me dis, bon, c'était son chemin, en fait.
C'était son karma.
Il était apocalyptique, comme son nom.
Alors, l'album a été précédé fin novembre de la chanson « Danse pour moi ». Il y a eu un deuxième single sorti en janvier, qui ne figure pas sur l'album, contrairement à « Danse pour moi », qui ouvre l'album. On va l'écouter dans un instant, mais pourquoi avoir choisi ce morceau? En quoi... parce que le premier morceau d'un album, ça donne quoi? La couleur? Ça donne le programme?
Ouais, un peu. Je sais pas, ce morceau, j'ai toujours eu un pressentiment avec ce morceau. Je savais que je voulais ouvrir l'album avec ce morceau. Et oui, je trouvais qu'il était assez représentatif, pardon, de ce disque. Il est assez dansant, il est assez conquérant. Il est, je sais pas, je trouvais que c'était une belle ouverture.
Confirme, on l'écoute. Danse pour moi qui ouvre votre nouvel album Calypso Valois Apocalypso. 10 titres, 31 minutes. Alors, c'est une concision qui vous honore parce qu'on se retrouve quand même bien souvent avec, depuis déjà de nombreuses années, avec des albums interminables dont on dit qu'ils auraient quand même gagné à être pas mal dégraissés. Et ça vous honore d'autant plus que, vous l'avez dit, il y a eu d'autres morceaux, mais je crois que d'une façon générale, vous écrivez beaucoup de morceaux, et puis vous choisissez vraiment... le choix est très restreint. Qu'est-ce qui fait qu'un morceau reste dans l'album ou se fait évacuer?
Ah oui, moi, pourquoi je les sauve? Alors, par exemple, celui-là, Danse pour moi, étrangement, je ne m'en suis jamais lassée, alors que la plupart des autres, au bout de 2 mois, je suis là, ouf, j'en peux plus. Et je ne sais pas. Il y en a, on sent qu'ils ont un truc. Parfois, c'est le texte ou parfois, c'est quelque chose dans la compo. Où on se dit, on a le sentiment d'avoir touché à un truc. Enfin, un truc qui nous émeut, enfin, qui m'émeut, je vais parler en mon nom. Et j'arrive pas à l'expliquer, mais juste, c'est vraiment de l'intuition, en fait. D'ailleurs, Étienne me dit souvent, suis ton intuition, c'est la chose la plus importante pour un artiste. Mmh. Et il a raison. Et parfois, quand on est trop, on a trop de choses à réfléchir ou qu'on est trop sollicité, on se perd. Et quand on sait plus, faut vraiment se revenir à soi et à son intuition. Et, j'ai l'impression que c'est ça qui nous fait faire les bons choix artistiques.
Non, mais encore une fois, seulement 10 morceaux, seulement 31 minutes, ça, c'est un choix qui est quand même rare aujourd'hui. Ça, c'est une volonté.
Je me suis pas dit en le faisant, je vais faire quelque chose de ramassé ou de condensé, mais ça s'est fait en fait naturellement. J'ai choisi les morceaux qui me semblaient les plus impactants et quand on travaillait la réalisation, je voulais pas en rajouter des caisses. Voilà, que ça reste à l'essentiel et à la substantifique moelle du morceau.
Ce disque est sorti chez Quaidan Records, réalisation à nouveau assurée par Yann Wagner, c'est le mix par Yuxek. Qu'est-ce que vous attendez justement des collaborations de ces personnes dont alors on connaît bien Yuxek pour sa propre carrière aussi, mais le travail de réalisateur, de mix, c'est un peu obscur pour le grand public. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'est-ce qu'ils font pour vous?
Eh bien en fait souvent, je trouve que ils arrivent à... Bon, je vais parler pour la réalisation. Parfois même à me révéler à moi-même mon propre morceau. Je me souviens parfois de conversations avec Yann où je lui disais « Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'utiliser tel son ou tel prod ?» Et il me disait « Bah, c'est le morceau qui m'a inspiré ça, en fait. » Comme si c'était induit dans la composition ou parfois dans le texte. Et voilà. Et par rapport au mix de Yuxek, moi, j'adore son travail. Et alors, pareil, alors pour le coup, j'avais une intuition depuis très longtemps que c'était avec lui qu'il fallait le faire. Et je trouve qu'il a fait un travail incroyable. Il a donné énormément d'ampleur et de profondeur au morceau.
Alors, Yuxek, il était mon invité à l'époque du deuxième confinement. Il était en novembre 2020, donc en studio et lui connecté depuis son studio. Dans cet extrait, je l'interrogeais justement sur son travail à lui de composition, sur la façon dont ses créations émergeaient. Ce serait pour mieux vous poser la question ensuite, Calypso Valois. Écoutez sa réponse à lui.
J'ai 200 projets en cours dans mon ordi, mais en fait, c'est ça que je trouve super excitant. Mais tout comme le... Enfin, je fais un parallèle, c'est pas exactement la même chose, mais tout comme les images qui définissent la musique sur un film, c'est-à-dire qu'il y a une alchimie à un moment, mais je vois ça souvent comme un puzzle, en fait. C'est vraiment des choses qui se mettent en place, et souvent dans ces quantités de projets qui traînent dans mes disques durs ou des ordinateurs, à un moment, je commence un truc, j'ai une boucle, quelque chose, et à un moment, je me dis « Ah oui, mais il y a ce truc que j'avais fait il y a 2 ans qui pourrait marcher avec. » Et en fait, c'est des éléments comme ça, Et c'est assez magique, en fait. Enfin, il y a quelque chose que j'aime dans ce processus de travail aussi, c'est que c'est presque un truc aussi un peu sur la mémoire ou sur des accidents de studio, quoi.
Ça, c'est pour Yuxek, mais est-ce que vous avez, vous aussi, je sais pas quoi, des disques durs, il y a des bouts de morceaux par là, des bouts de textes, vous évoquiez dans vos carnets des textes qui vont pas forcément, mais est-ce que vous allez pêcher à droite à gauche, vous avez une banque aussi?
Alors, il y en a plein, mais en général, j'ai comme une sorte de hantise de retourner dans ces, je les appelle les vieilleries, même si, du coup, j'en ai plein, mais souvent, je sais pas, je préfère recommencer quelque chose de nouveau, parce que soit si je remets les mains dedans, je trouve pas entre guillemets la solution pour arriver à ce que je veux, ou les textes Les textes, ça dépend, mais parfois aussi, j'ai des cahiers remplis et je relis et je suis là, c'est nul. Du coup, je me dis, bon, faut repartir de zéro. Mais, ou parfois, on va repêcher une idée ou j'ai aussi une note longue comme le bras dans mon téléphone avec des textes. Pareil, il faut tout que je relise, que je reprenne s'il y a des éléments intéressants. Moi, je suis plutôt partisan du recommencer.
Recommencer. Alors, ça veut dire, ça commence comment ? Avec le clavier du synthé, d'abord ?
Oui, ou avec le piano, d'ailleurs. Ces derniers temps, contrairement à avant, je me suis un peu réconciliée, on va dire. Et du coup, ça peut être le piano, même si le piano peut donner tout de suite un truc un peu grandiloquent. Mais je sais pas, c'est comme si je retournais aux sources et que j'acceptais, ce sera pas du Chopin. parfois même les dernières démos que je faisais étaient beaucoup plus simples, beaucoup moins d'instruments, d'arrangements, voilà, piano, voix, un rythme, enfin quelque chose de plus... comme dit également Étienne, une bonne chanson, c'est une bonne mélodie, un bon texte. Et voilà.
Ouais. Bon, il faut les trouver. Hein. Mais à propos de musique, cela étant, Calypso Valois, depuis plusieurs années, vous avez aussi développé une importante activité de DJ. Est-ce que ça a changé votre rapport aussi à la composition musicale ?
Non, pas vraiment. C'est très séparé. Au début, c'est marrant, je voulais pas faire ça. En fait, on me le proposait, je ne sais pas faire ça. Et puis un jour, je l'ai fait. Pareil, c'était des amis qui ont un peu insisté, ils ont organisé une grosse fête, enfin un public. Je veux dire, c'était. Et en fait, on s'est éclaté. Et c'est vrai que c'est complètement autre chose. Mais le fait de faire découvrir, j'aime bien aussi mettre beaucoup des morceaux que les gens ne connaissent pas forcément. Faire découvrir des morceaux qu'on adore et qui plus est dansant à des gens, c'est plaisant aussi. C'est autre chose. Mais c'est vrai que non, c'est assez dissocié dans ma tête.
Alors tout de même, musique, elle sort pas de nulle part. Calypso Valois, il faut bien qu'elle vienne d'une humeur, d'une image, d'une idée, je ne sais pas. Alors quand vous composez la mélodie de Ravin, qu'on va écouter dans un instant, ça commence comment et les paroles arrivent comment sur cette mélodie ? Alors je ne sais pas si c'est d'abord mélodie là aussi.
Ouais, pareil. En fait, c'est un peu toujours la même formule. C'est je fais les harmonies principales, les accords. Ensuite, je mets la mélodie. Et ensuite, je mets le texte.
Alors, c'est quel sentiment, quelle idée, quelle image, quelle...
C'était pas très joyeux.
Pas très, on va l'entendre, oui.
C'était pas très joyeux, mais c'était un petit peu ironique. Enfin, il y a une petite pointe de... C'est pas non plus triste comme La Brèche, quoi. La Brèche, c'est noir sur noir, quoi.
Ouais, là, il y a quand même du romantisme revisité.
Moi, je suis quelqu'un de très romantique, mais dans le sens premier du terme, c'est-à-dire le romantisme, c'est l'absolu, c'est l'absolu ou la mort. Enfin, c'est pas, je sais pas pourquoi maintenant ce terme a pris une connotation un peu gnangnan. Non, ouais, le romantisme,
façon le vrai, Goethe, le quoi. Pur, ouais, le dur.
Team Goethe. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de romantisme dans mon travail.
Bon, mais Ravin, c'est romantisme 2.0, on va dire.
Ouais, voilà, il y avait aussi un peu Crash de Cronenberg, quoi. Ouais.
Allez, on l'écoute.
Le plaisir de naufrage vise le carambolage. Si mal et si bien, sera le mien. Adorer l'emporter, amoureux rescapé, j'y laisserai ma peau. Ne ferai pas de vieux objets chercher en vain dans ces étoiles. Tu m'entraînes dans ta chute, chute de rallonge déchue. Devinez les coups de rein, le paysage défile, les souvenirs s'effilent ou fondus
Ravin, extrait de cet album Apocalypso de notre invité Calypso Valois. Alors évidemment, ces morceaux de l'album ils vont être portés à la scène. D'ailleurs, je crois que vous avez déjà joué, on en parle dans un instant. Mais justement, qu'est-ce qui est important pour vous dans le travail du groupe pour la scène ?
Alors pour la scène, le live, il est plus rock que le disque, et ça c'était une volonté, c'était déjà le cas avec l'album précédent et le live précédent, parce que moi quand je vais au concert, je vais surtout voir des concerts de rock, de post-punk, c'est ça qui m'éclate. À la base je voulais d'ailleurs faire un disque de prog ou de psyché, j'ai pas vraiment réussi mon coup.
Bon, le prochain.
C'est ça, vous connaissez le programme. Et donc voilà, donc après, c'est pas non plus, on va pas non plus transformer le disque, il est ce qu'il est, mais accentuer certaines choses, réarranger certaines choses, mettre des éléments plus en avant, voilà. Et on est quatre, et c'est un grand plaisir de jouer avec, de jouer en live avec les autres.
Quelle formation alors, voilà. Guitare, basse, batterie, clavier.
Voilà, moi ouais. Je fais du clavier aussi, ouais. Mais pas tout le temps, parce que j'aime bien être aussi focus sur juste le chant. Mmh. Et voilà.
Ça met dans quel état de monter sur scène pour vous ? En tout cas, qu'est-ce que vous ressentez intérieurement au moment où il s'agit de monter et d'y aller pour le premier morceau ?
Bah c'est extrême. c'est beaucoup d'adrénaline, enfin, ce que je trouve fou avec ce métier de musicien, c'est que enfin on est un peu schizophrène, parce que c'est vrai que la composition c'est l'extrême solitude. On est seul face à soi-même, enfin la composition, l'écriture, on est seul face à soi-même, face à ses méandres, on sort vraiment des choses, même parfois je m'étonne même de ce que j'écris ou je me choque moi-même, je me surprends moi-même. Et la scène, c'est l'inverse. C'est être pour les autres, avec les autres, donner aux autres, entouré de tellement de gens. Enfin, c'est schizophrénique, en fait.
Alors, on va prendre le temps, juste avant de mettre fin à cet entretien, d'écouter le dernier morceau. On a écouté le premier, j'ai choisi le dernier, à la française. Il est né comment, celui-là ?
Alors celui-là, donc il a un format un peu particulier, c'est comme un peu une ritournelle et tout à coup il y a un switch harmonique, donc il n'est pas comme les autres couplets-refrains, et j'ai essayé de lui faire un format normal couplet-refrain, mais ça ne marchait pas, donc au bout d'un moment j'ai fait, bon il est comme ça, il faut juste l'accepter tel qu'il est.
À la française.
C'est ça.
We'll be right back.
C'était un petit tour dans votre album Apocalypso, qui vient tout juste de sortir chez Quaidan Records. Il faut que je rappelle que vous serez en concert Calypso Valois le 15 mai à la Boule Noire à Paris. Alors si je me dépêche, je pourrais peut-être voir un bout du concert. Le 19 mai à Saint-Brieuc, ce sera le festival Art à Rock. Et puis le 24 août à Montpellier, j'y serai peut-être, au domaine de Gramont. Ah. Palma Rosa Festival. Il me reste à vous remercier Calypso Valois d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
S'il y a bien une catégorie à scruter de près aux Grammy Awards, ces grandes médailles de l'industrie musicale aux États-Unis, c'est bien celle du meilleur album de musique alternative. Alors son nom a beau ne pas donner d'indications précises quant aux genres musicaux représentés, on y trouve plus aisément de véritables intentions d'auteur que dans la catégorie reine album de l'année. Deux fois lauréate du prix, St. Vincent ou Annie Clark à la ville, navigue aux confins des styles depuis ses débuts en solo dans les années 2000. Artiste polymorphe aux influences diverses, quoique pour l'essentiel extravagante, David Bowie, Kate Bush, Suzy and the Banshees, pour ne citer que, elle présente un nouvel album, All Born Screaming. St. Vincent brouille les pistes entre pop baroque, instant suspendu et cérémonial rock. L'invité marquant de l'album est Dave Grohl, ex-batteur de Nirvana et leader du groupe hard rock Foo Fighters, invité à ressortir ses baguettes sur deux titres, dont le single Broken Man. Alors en attendant les Grammys, c'est notre son du jour.
On the street, I'm a king size killer. I can make your kingdom come. On my feet, I'm an earthquake shaking. So open up my little one. What are you looking at? Who the hell do you think I am? And what are you looking at? Like you never seen a broken man. Love and nail yourself tied to me. If you go, I won't be well. Like, what are you looking at? Well, who the hell?
C'était Broken Man de Saint Vincent, extrait de son nouvel album All Born Screaming.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je viens d'arriver à Boulogne-Billancourt, précisément au musée départemental Albert Kahn. Alors c'est un musée très singulier, un de mes préférés à vrai dire, dans lequel on peut voir non seulement tous ces autochromes, hein, ces traces du monde entier qu'a fait faire le banquier philanthrope Albert Kahn, mais également des expositions temporaires. Alors justement aujourd'hui s'ouvre celle de la saison consacrée eh bien, à la nature, au jardin, qui était une des grandes préoccupations d'Albert Kahn, en plus des voyages autour du monde. Je vous propose d'aller rencontrer la directrice du lieu et la commissaire d'exposition qui nous attendent pour cette visite. Bonjour.
Bonjour, bienvenue au musée départemental Albert Kahn. Je suis Nathalie Doury, la directrice du musée.
Alors avant de commencer à visiter cette exposition temporaire qui ouvre ces jours-ci, est-ce que vous pourriez nous rappeler qui est Albert Kahn et quel est l'objectif de ce musée ?
Alors effectivement, le musée est tout entier consacré à l'œuvre d'Albert Kahn, un banquier et philanthrope français, né en 1860, mort en 1940 à Boulogne, et qui a consacré sa vie et sa fortune au financement d'un projet d'influence à destination des élites de son temps, qui visait à promouvoir un esprit universaliste, à orienter la gouvernance mondiale en direction de la paix et du progrès universel. Donc
rien que ça. Projet, quoi. Mais il le fait grâce à un moyen artistique, en tout cas aujourd'hui on le considérait comme artistique, ou de reporter, c'est-à-dire par l'image.
Alors il le fait en fait en combinant un certain nombre d'outils. Il va créer des fondations donc, qui vont permettre de mettre la conversation du temps sur les sujets qui l'intéressent, en particulier le premier projet qui est les bourses autour du monde, qui vise à doter des jeunes agrégés de bourses de voyage, et des jeunes agrégés puisque les bourses de voyage Albert Kahn sont ouvertes aux femmes à partir de 1905. Il va également promouvoir une forme de connaissance du monde et des cultures du monde, autour des archives de la planète, qui est un projet d'inventaire visuel de la diversité mondiale autour tournant du XXe siècle, en réalité dans les 30 premières années du XXe siècle, puisque pendant 20 ans, il va financer des opérateurs, caméramen et photographes qui vont arpenter le monde pour le décrire, pour en capter tous les aspects dont la disparition inéluctable, dit Kahn, n'est plus qu'une question de temps.
Et il avait raison.
Et il avait raison. À partir du premier procédé couleur, qui est le procédé autochrome, photographique couleur, qui est le procédé autochrome des Frères Lumière.
Pourriez-nous rappeler ce qu'est un autochrome ?
Alors, une autochrome, en réalité, puisqu'il s'agit d'une plaque, de projection, donc qui était destinée à être projetée, montrée, traversée par la lumière. C'est d'ailleurs un des principes de présentation que vous allez voir décliner dans l'ensemble du musée, et qui comporte une couche photographique argentique, et puis une émulsion fabriquée à base de fécule de pommes de terre, de grains de fécule de pommes de terre colorées, qui donne à la fois cette couleur incroyablement vivante, mais aussi une forme de douceur et de velouté qui est très caractéristique de l'autochrome.
Combien il y a d'autochromes à peu près conservés ici ?
On a 72 000 autochromes, donc c'est la première collection d'autochromes du monde. La deuxième, c'est celle du National Geographic, qui en compte la moitié.
Bonjour, je suis Luce Lebar, je suis commissaire générale de l'exposition Nature vivante, imaginaire des jardins Albert Kahn.
On vient d'entrer dans l'exposition au premier étage du musée, et c'est un film qui nous accueille.
On est accueilli en effet par un film en noir et blanc où l'on voit des visiteurs des années 20 qui arrivent vers nous par un petit sentier et qui progressivement, par le côté droit de l'image, sortent de l'écran, semblent sortir de l'écran, pour rentrer eux-mêmes dans l'exposition.
Donc là, comment vous avez construit l'exposition ? Vous avez été fouiné parmi les dizaines de milliers d'autochromes, ceux qui parlaient du jardin, ceux qui montraient le jardin ?
En fait, j'ai découvert ces images alors que je travaillais en immersion dans l'ensemble du corpus d'images d'Albert Kahn, donc c'est plus de 73 000 autochromes, en préparant le petit guide du musée qui est paru chez Gallimard pour l'ouverture en 2022. Et c'est à ce moment-là que parmi toutes ces images des archives de la planète qui montrent le monde entier, je suis régulièrement tombée sur des images différentes des plantes, des toutes sortes de plantes, y compris des plantes exotiques, pris de près, pris à différents intervalles de temps, pris à différents moments de la journée, avec des variations de conditions atmosphériques, avec des variations de couleurs, une façon de représenter en couleurs les plantes jamais vue dans l'histoire de la photographie.
Mais est-ce que ça, c'était une volonté d'Albert Kahn? On l'a dit avec la directrice, il a envoyé des opérateurs un peu partout. Est-ce que pour lui, ça a été une de ses recommandations?
Alors, ce dont on s'est aperçu en préparant cette exposition, c'est qu'en réalité, quand Albert Kahn, en 1909, au retour de son tour du monde, il décide d'embaucher un photographe, c'est pour photographier son jardin. Et c'est ce photographe qui va envoyer ensuite en première mission en France et en Scandinavie.
Alors, est-ce que vous pourriez nous emmener devant deux ou trois œuvres qui vous semblent caractéristiques de cette exposition?
Alors ici, on arrive à un endroit que j'adore, dans lequel on a rassemblé des agaves. Les agaves, ce sont ces plantes qui ne fleurissent qu'une fois tous les 7 ans et qui, lorsqu'elles fleurissent, meurent ensuite. Et puis on les voit aussi, ces agaves ici, photographiées à tout moment de la journée, en fin de journée, le matin tôt, avec des ciels de tourment, des ciels tourmentés. Et là, j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que les opérateurs, ils osent des plongées, des contre-plongées, des prises de vue expérimentales.
Oui, audacieuses.
Et audacieuses, exactement. Des images sombres, des images, des contre-jours aussi, des jeux de contre-jours très graphiques.
Entre tout ce que vous dites sur le mouvement, sur la lumière, là, sur les différents moments de la journée, on pense quand même au travail des impressionnistes. Il y a quand même un lien assez fort entre eux, ce qu'ils ont essayé de faire en peinture, et puis là, ce travail photographique-là.
Alors, il y a eu des rapprochements qui ont été faits, effectivement, avec les impressionnistes, notamment aussi à cause de la matière même de l'autochrome, qui est faite de fécule de pommes de terre teintées, donc de plein de petits points. Si on les agrandit, ce qu'on verra juste après, si on agrandit un autochrome, on voit en effet, on a l'impression qu'on est sur du pointillisme. Mmh. L'image que moi j'aime énormément, qui ici, vous voyez, elle est un petit peu monochrome, c'est un rhododendron, un portrait de rhododendron. Elle n'est pas très colorée. Au musée, on les appelle des images athées, ça veut dire à terminer. Pour développer un autochrome, il fallait 6 étapes de développement. Certains n'ont pas été développés, ils sont dans cet état-là. Qu'est-ce qui est merveilleux dans cette image? Si vous regardez, c'est un rhododendron aux fleurs fanées. Les opérateurs d'Albert Kahn photographiaient les plantes dans tous leurs états et pas seulement leur verte nouveauté. Alors vous avez vu, la scénographie ici change. Elle commence dans l'obscurité. On commence l'exposition dans l'obscurité pour petit à petit aller vers la lumière et aller à la rencontre du jardin à travers les grandes baies vitrées de Kengo Kuma, où là, on va trouver des œuvres qui ont été créées spécifiquement pour l'exposition, par des artistes invités en résidence et dont les œuvres, là, vraiment dialoguent avec le jardin, en vis-à-vis avec lui. Ici, dans cette vitrine, des pièces réalisées par Christophe Rankin, un artiste belge, qui, lui, est allé avec les jardiniers dans le jardin ramasser des baies de sureau, ramasser des branches d'épicéa, qu'il a transformé, brûlé, des branches mortes évidemment, pour fabriquer du charbon d'un côté et puis du jus de baie sauvage de l'autre. Et avec ces deux matériaux, il a fabriqué ces images.
Les images qui sont juste à côté, dans la vitrine d'à côté.
Voilà. C'est un artiste activiste. C'est un artiste qui cherche à faire une photographie qui soit durable et qui soit non nocive pour l'environnement. On montre aussi ici une image qu'il a fait donc avec les baies de sureau, mais c'est ce qu'on appelle un anthotype, c'est un procédé aux fleurs, de anthos en grec qui veut dire fleur. C'est un procédé qui renvoie au tout début de la photographie, quand la photo était en noir et blanc, était monochrome, elle n'avait pas de couleur. Sir John Herschel, un des inventeurs, en 1842, il a l'idée, pour faire de la photo en couleur, parce que ça manque la couleur, il a l'idée d'utiliser des jus de fleurs. Et il bâtit ce procédé, l'anthotype. Il n'a pas eu de postérité vraiment. Pourquoi? Parce que, en fait, ça ne se conserve pas. C'est des images qui ne durent pas. C'est des images qui...
Ah, la couleur s'en va?
Et oui. Le colorant, avec la lumière, s'efface.
Mais aujourd'hui, photographie couleur éphémère.
exactement. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui justement intéresse des artistes contemporains pour lesquels la question de la durabilité d'une image n'est pas forcément ce qui motive leur pratique, et bien au contraire.
Et cette exposition, on peut venir la voir jusqu'à quand ?
Le 31 décembre 2024.
Ah, on a un peu de temps alors devant nous. Mais c'est beau de la voir au printemps, on vient de le dire, avec ce jardin magnifique juste à côté.
Tout à fait, je pense que c'est une exposition qui va être belle à toutes les saisons.
Merci beaucoup pour cette visite.
Merci à vous.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Demain, Arnaud, je vous emmène au musée Grévin pour assister à la préparation de la statue de cire du baron Pierre de Coubertin. J.O. oblige.
Merci Marie et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.